Commentaire sur l'épître de Paul aux Romains 1.8-15, ses prières à leur égard. V8, Paul commence, comme il le fait dans plusieurs épîtres, par citer des sujets de grâce que ses destinataires évoquent pour lui. Dans le cas des Romains, il pense avec reconnaissance à leur foi. Un bon rapport circulait partout dans l'Empire au sujet de la foi des chrétiens dans la capitale. Elle était renommée, célèbre dans un bon sens. Paul en rend donc grâce à Dieu par Jésus-Christ. L'expression « à Dieu par Jésus-Christ » n'est pas sans importance. Jésus est notre seul médiateur sous la Nouvelle Alliance, Jean 14.6, 1 Timothée 2.5. La prière est donc offerte à Dieu par lui, ou en son nom, Colossiens 3.17, Éphésiens 5.20. Voilà pourquoi nous précisons dans nos prières que nous prions au nom de Jésus. Sans lui, nous ne pourrions pas, à cause de nos péchés, nous présenter devant Dieu, même pour le remercier. V9, Paul appelle Dieu comme témoin du fait qu'il parle souvent des frères romains quand il prie. En effet, c'est Dieu seul qui pourrait témoigner de ce que Paul priait en privé. Paul dit ici qu'il sert Dieu en son esprit dans l'Évangile. Certains voient dans cette phrase un parallèle avec les propos de Jésus en Jean 4.24, « Il faut que ceux qui adorent, Dieu, l'adorent en esprit et en vérité. » Le dévouement à Dieu vient de l'homme intérieur, ou doit, pour être acceptable, en procéder, c'est-à-dire, dans la sincérité, du fond du cœur, et s'exprime selon les ordonnances de l'Évangile, de la vérité révélée par Dieu. V10, quand il mentionne les Romains dans ses prières, Paul demande à Dieu l'occasion d'aller vers eux. Il fait cette demande, bien sûr, par sa volonté. En d'autres termes, il prie, si tu le veux, Seigneur. Il exprime son désir, mais il reste soumis à la volonté de Dieu. Son désir de leur rendre visite, V11,12, Paul cite ici deux raisons pour lesquelles il veut voir les Romains. Il veut encourager ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, avouez à moi. 13 Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. 14 Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. 15 Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Leur communiquer quelques dons spirituels, afin de les affermir et aussi être encouragés avec eux par le partage de la foi qu'ils ont en commun. Un don spirituel pourrait être tout simplement la connaissance, la paix, ou l'encouragement. Par contre, je ne vois aucune raison pour ne pas l'interpréter comme un don de l'esprit, un don miraculeux. En tant qu'apôtre, Paul avait la possibilité d'en transmettre, Actes 6.6, 8.18, 19, 19.6, 2 Timothée 1.6. Or, si aucun apôtre n'avait travaillé avec l'Église de Rome, ses membres n'auraient pas les dons miraculeux qui étaient si utiles dans les Églises à cette époque, à l'exception des membres qui auraient voyagé ou résidé auparavant là où se trouvait un apôtre. V13, Paul avait non seulement désiré voir les Romains, il avait plusieurs fois fait des projets concrets pour atteindre ce but. Il en avait été empêché. Plusieurs choses pourraient, en effet, empêcher un chrétien de réaliser des projets faits pour le service de Dieu. Dieu lui-même a empêché Paul et ses compagnons de se rendre dans certains pays, Actes 16.6-10, Paul avait voulu rendre visite à l'église de Thessalonique, mais Satan l'en avait empêché certes avec la permission de Dieu, 1 Thessaloniciens 2.18, de même, les besoins pressants de certaines communautés pourraient exiger l'attention d'un serviteur de Dieu et l'empêcher d'aller vers d'autres endroits pour prêcher. Paul veut recueillir quelques fruits parmi eux. Le fruit représente le résultat des labeurs. Dans le domaine spirituel, le fruit du travail de l'apôtre serait des âmes converties ou une croissance spirituelle en connaissance, pureté, dévouement et bonnes œuvres. Ce fruit n'est pas pour Paul lui-même. Les champs missionnaires du monde entier appartiennent à Dieu, qui envoyait Paul, et l'Église dans son ensemble, labourée partout. Paul voulait faire sa part pour que le rendement soit abondant dans le plus de champs possible. VS 14,15, Paul exprime deux sentiments à l'égard de la prédication de l'Évangile, un sens de devoir, et un vif désir. Il ne faut pas penser que le sens de devoir est une motivation inférieure. Il n'est pas mauvais de faire quelque chose tout simplement parce que l'on se sent obligé. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient souvent des messages désagréables de la part de Dieu que le peuple ne voulait pas entendre. Ézéchiel en particulier avait à livrer son message d'une manière difficile. Mais ils étaient soumis à Dieu. Paul, aussi, cite souvent cette obligation qu'il avait de prêcher 1 Corinthiens 9.16, 17, 1 Corinthiens 4.2. Cette obligation vient du fait que Dieu a commandé la prédication, Marc 16.15, et aussi de la grâce reçue, 1 Timothée 1.12-16, Matthieu 10.8b, Luc 12.48b. En parlant des Grecs et des barbares, ceux qui parlent le grec et ceux qui ne le parlent pas, ou des savants et des ignorants, Paul veut dire tout le monde. L'évangile est pour tous, ceux de tous les peuples et de tous les rangs sociaux et intellectuels. Le fait qu'une activité est un devoir ne signifie pas que nous l'accomplissions malgré nous-mêmes, ou à contre-cœur. La prédication de la bonne nouvelle est un devoir, mais elle nous donne une grande satisfaction. Paul reconnaissait son devoir, mais en plus il avait un vif désir de prêcher la parole de Dieu, et plus précisément, l'évangile, le message du salut. Et il voulait le prêcher à Rome également. C'est car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Commentaire sur l'épître de Paul aux Romains 1.1 à cette salutation et adresse. 1 Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, 2 qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes. Selon la coutume de l'époque et contrairement à notre habitude moderne, Paul signe sa lettre au début plutôt qu'à la fin. Paul s'identifie par 3 expressions. 1. Un serviteur de Jésus-Christ. C'est une expression qui évoque les idées d'humilité, soumission et responsabilité. 2. Apôtre. Le mot apôtre, dans son sens plus général, signifie envoyé, mais un envoyé ayant une certaine autorité de la part de celui qui l'envoie. Selon son usage habituel dans la Bible, le mot désigne un homme choisi par Jésus-Christ, ayant reçu de lui une autorité particulière. Certaines qualifications étaient nécessaires pour que des hommes soient apôtres dans ce sens plus limité, l'usage le plus commun dans le NT, ils avaient vu le Seigneur après sa résurrection, afin d'en être les témoins Actes 1.21, 22, Jean 15.27. Paul n'en est pas l'exception 1 Corinthiens 15.8, 1 Corinthiens 9.1, Actes 22.15b ils avaient été choisis et appelés à l'apostolat par Jésus lui-même, Luc 6.13. Voir le cas de Paul en Galates 1.1c ils étaient forcément inspirés de Dieu afin d'accomplir leur travail, Jean 14.16, Jean 16.13, 1 Jean 4.6. Paul le fut aussi. 1 Corinthiens 2.10 au 13, Galates 1.11, 12. Cette inspiration leur permettait de prêcher d'une manière infaillible ce que Dieu voulait révéler aux hommes. Dès ils avaient des pouvoirs miraculeux, Marc 16.20, Actes 2.43. Paul en avait. Lui aussi 2 Corinthiens 12.12. Ces miracles servaient à prouver qu'ils étaient des porte-paroles de Dieu et donc à confirmer le message que Dieu était en train de révéler par eux. Leur autorité s'étendait sur toutes les églises, Actes 15.1o, 16.4, 2 Cor 10.8. Un homme n'a pas droit de se dire apôtre s'il n'a pas toutes ses qualifications. Remarquez que la nature de la tâche de ces hommes exclut le besoin et même la possibilité d'avoir des successeurs. 3 Mis à part pour l'évangile selon Galates 1.15, Paul avait été mis à part dès le sein de sa mère afin qu'il annonce le Christ aux païens. Cette expression « mis à part » signifie séparé du monde et de ses occupations, réservé pour un usage particulier, et, peut-être dans ce cas, préparé à cet effet à travers sa vie. Tous les chrétiens sont mis à part pour Dieu, mais les apôtres l'étaient dans un sens additionnel, comme l'étaient les prophètes de l'Ancien Testament, qui, pour servir d'une manière particulière, étaient choisis du milieu d'un peuple choisi. Au verset 2 nous passons à une description de cet évangile de Dieu et de son sujet principal, Jésus-Christ. L'évangile 1. Il avait été promis d'avance dans les Écritures. L'évangile fut annoncé par plusieurs moyens et dans plusieurs passages de l'Ancien Testament. Selon Galates 3.8 Dieu l'a annoncé d'avance à Abraham en lui disant que toutes Écritures, 3 et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, 4 est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, 5 par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, 6 parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, c'est à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être les nations seraient bénis en lui. Selon Jésus en Luc 24.26, 27.44-47, des passages dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes parlaient de lui. Ésaïe 53 en est clairement un exemple. Même les cérémonies de la loi mosaïque annonçaient symboliquement l'évangile, d'après Colossiens 2.16, 17, Hébreux 8.5, 9.8 au 10, 10.1. On voit donc l'importance de cet évangile par le fait qu'il faisait partie d'un dessein éternel de Dieu. C'est à cet évangile que Paul est consacré. 2. Il concerne le Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. À selon la chair il est de la lignée de David. La descendance physique de Jésus est importante parce qu'elle lui permet d'accomplir les prophéties faites auparavant. Elle signifie aussi qu'il est devenu réellement homme. B. Selon l'Esprit de sainteté il fut déclaré fils de Dieu. Selon l'Esprit est en contraste avec selon la chair et présente sa nature et son origine divine, Voir Luc 1.35 tout comme son lien physique avec David montre le côté humain de sa nature et de son origine en ce qui concernait sa vie sur terre. Il fut déclaré fils de Dieu par sa résurrection. Sa victoire sur la mort sert de preuve indéniable de sa divinité. Plusieurs passages citent la résurrection comme preuve finale et décisive de l'identité de Jésus et de la vérité de l'Évangile. Voir, par exemple, 1 Cor 15.12 au 20, Actes 17.31 et Luc 11.29, 30. Cette idée est soulignée encore en Actes 13.32 par Paul dans son sermon à Antioche de Pisidie, où il cite la résurrection de Jésus comme accomplissement de la phrase « Je t'ai engendré aujourd'hui ». C'est par ce Jésus, Paul, ainsi que tous les apôtres, avaient reçu la grâce et l'apostolat. La grâce dont il parle est probablement la faveur de pouvoir servir l'Éternel en tant que prédicateur, voir Galates 2.7-9 et Éphésiens 3.7-8. L'objet pour lequel cet apostolat fut donné était l'obéissance de la foi parmi les païens. Certains interprètent cette expression comme étant l'obéissance à la foi chrétienne, la foi ordonnée par Dieu, d'autres l'interprètent comme étant l'obéissance qui procède de la foi dans le cœur du chrétien. Parmi les païens qui devaient bénéficier de son apostolat étaient les Romains qui avaient été appelés. S'étant identifié comme expéditeur de la lettre, Paul passe à la salutation, où il identifie les destinataires. Aux bien-aimés de Dieu à Rome, ils sont appelés de Jésus-Christ, ce qui veut dire appelés par Jésus ou les appelés qui appartiennent à Jésus, V6. 2. Ils sont appelés à être saints, V7. Il est vrai que dans le langage courant et moderne, l'expression un saint est employée pour parler d'une personne morte, désignée spécialement à cause de sa piété et approuvée par l'Église catholique pour qu'on lui adresse des prières. Ayant plus de grâce que nécessaire pour son propre salut, elle peut, dit-on, en dispenser à d'autres pécheurs. D'autres saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. 9. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, dit demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous 11. Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, 12 ou plutôt, afin que nous soyons emploie l'expression saint tout simplement pour parler d'une personne qui est plus serviable, aimable ou noble que la plupart des gens. Dans la Bible, par contre, saint signifie celui qui est consacré à Dieu, censé donc se garder pur pour son service. Dans la plupart des cas, au moins dans le Nouveau Testament, il s'agit simplement d'un chrétien. Dans tous les cas, les usages courants déjà cités ne se trouvent pas dans la Bible. 3. Paul souhaite aux Romains la grâce et la paix, sa salutation usuelle. La salutation habituelle parmi les Juifs était shalom, c'est-à-dire paix. Parmi les Grecs, la salutation était grâce. Paul met donc les deux ensemble. La grâce ici se réfère, je crois, à la faveur et la bonté de Dieu d'une manière générale. Quel que soit le besoin physique ou spirituel de l'individu, Paul souhaite que Dieu soit bien disposé, malgré l'absence totale d'une obligation de sa part, pour accorder à la personne ce dont elle a besoin. Un sens de paix intérieure serait le résultat de la connaissance que Dieu agit avec bonté et grâce à son égard.